Chapitre 29. Seule la télévision veillait dans la chambre de Jane plongée dans la pénombre. Les monstres du Jurassique qui s'affrontaient sur l'écran n'avaient rien de réel. Leur férocité reptilienne ne pouvait provoquer qu'une peur artificielle. Ce n'était pas le moment pour la jeune femme de laisser libre cours à ses larmes, de s'interroger sur le sort que l'existence lui avait réservé, de rêver à ce qui ne serait jamais. Elle était prête à sacrifier sa vie pour que son petit garçon adoré puisse connaître un avenir digne de ce nom. À l'heure de faire un choix cruel, il n'était pas question pour elle de se laisser déborder par ses émotions. Ayant dormi quelques heures à peine la nuit précédente dans un fauteuil de l'Holiday Inn à Casa Grande, Jane aurait aimé s'accorder quelques heures de repos dans ce motel de Phoenix, mais la perspective de ce qui l'attendait l'empêchait de fermer l'œil. Malgré l'atmosphère paisible qui l'entourait, après les semaines d'angoisse et de violence qu'elle venait de connaître, elle traversait une crise intérieure majeure. Passer à l'action le plus vite possible était encore le meilleur moyen d'échapper à ses adversaires. À moins de prendre les devants, elle ferait les frais de sa prudence. Il lui fallait toutefois réfléchir sérieusement, avoir la certitude que la solution qu'elle avait imaginée était la meilleure. Elle disposait à présent de toutes les preuves nécessaires pour que le complot techno-arcadien échoue. Des preuves accablantes, telles que l'histoire n'en avait pas connues depuis le procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. À une certaine époque, le plus sûr eût été d'entrer en contact avec un grand journal ou une chaîne de télévision nationale et de fournir à ses interlocuteurs le scoop du siècle. Ce n'était plus envisageable à présent que le grand public affichait ouvertement sa méfiance vis-à-vis des médias, parfois avec raison. Surtout, la plupart des grands noms du journalisme étaient modifiés lorsqu'ils n'avaient pas rejoint les rangs des Arcadiens. Il restait bien sûr des journalistes honnêtes ou épargnés par les implants cérébraux, mais il s'agissait essentiellement de second couteau. S'allier à des professionnels de l'information qui n'avaient pas les moyens de révéler la vérité mettrait en danger de mort les intéressés. Jane avait déjà tenté sa chance en contactant Lorenz Sanafin, une plume de renom, avant de s'apercevoir qu'il faisait partie du complot. Elle aurait pu se fier aux élus du Congrès dont les noms n'apparaissaient dans aucune des listes de Vikram, mais la réputation sulfureuse dont l'accablaient les médias lui interdisait de les approcher. Même si elle avait réussi à donner rendez-vous dans un endroit discret à quelques sénateurs charismatiques susceptibles d'alerter la presse, il lui aurait fallu convaincre l'intéressé que le complot existait bel et bien, ce qui n'aurait pas été aisé en dépit des éléments dont elle disposait. Qui aurait accepté de croire à l'existence des nanomécanismes, d'êtres humains transformés en machines à tuer, d'individus privés à jamais de leur libre arbitre, de citoyens promis à l'extermination au prétexte que leur nom figurait sur la liste Hamlet? Même à une époque où les théoriciens des nouvelles technologies, à l'image d'Elon Musk, Ray Kurzweil et de nombreux autres annonçaient l'avènement de la singularité, une ère qui verrait le cerveau humain et l'ordinateur donner naissance à une espèce supérieure, les détails du complot arcadien seraient considérés comme des élucubrations dignes d'une bande de fous. Et même en supposant que Jane parvienne à convaincre une sénatrice ou un sénateur, l'élu en question suivrait-il la voie de sa conscience? Ou bien chercherait-il la solution de facilité en rejoignant les rangs des Arcadiens? Les politiciens courageux étaient à peu près aussi nombreux que les tigres albinos et les grenouilles à deux têtes. Jane refusait de placer la vie de son fils et l'avenir de tous les enfants de la planète entre les mains d'un personnage public qu'elle ne connaissait pas. 10 ans plus tôt, elle aurait peut-être pu se servir d'Internet pour dénoncer les Arcadiens. Mais la toile s'était métamorphosée depuis en un refuge de nouvelles bidons, de frustration et de paranoïa, de sorte que le complot arcadien serait oublié en l'espace d'une semaine après avoir été abondamment raillé par les plus moqueurs. Sans compter que les Arcadiens avaient pris la précaution de noyauter habilement les réseaux sociaux et n'auraient aucun mal à étouffer l'affaire. Il ne restait à ses yeux qu'une seule option, une solution qu'elle-même n'aurait pas envisagée quelques jours plus tôt. Elle tira de sa poche le médaillon cassé que lui avait offert Travis. À en croire ce dernier, le camé dont était orné ce bijou en argent découvert dans un ruisseau ressemblait à Jane. Le petit garçon était persuadé que ce médaillon était un talisman que le destin avait placé sur sa route pour protéger sa mère. Jane caressa la pierre entre ses doigts, non pas dans l'espoir d'en voir sortir un génie, mais faute de pouvoir toucher son enfant. Depuis des millénaires, les êtres humains vivaient et mouraient avant de disparaître dans les oubliettes de l'histoire. Même les plus célèbres, anges ou démons, n'échapperaient pas éternellement à la grande gomme du temps. La planète, contrairement à la déesse Gaïa, n'était pas une mère aimante préoccupée du bonheur de sa progéniture. Le monde restait indifférent aux difficultés de ses enfants. À l'heure de la résolution finale, la célébrité ne pèserait rien, et tous ceux qui aspiraient à connaître la gloire n'étaient que des imbéciles. La richesse et le pouvoir n'avaient aucun sens à terme. La valeur d'un être se jugeait à ses actions privées, loin des regards extérieurs. Le paradoxe le plus terrifiant de la condition humaine tenait à une triste réalité. Personne ne se souciait que l'on restât fidèle à ses convictions dans le secret de son intimité. En fin de compte, chaque être était le seul juge de sa probité ou de son iniquité. Telles étaient la beauté et l'horreur de ce que l'on nommait le libre arbitre. Jane ne connaissait qu'un chemin. Son unique espoir était la chambre des murmures, et elle seule pouvait s'y aventurer. Elle avala une dernière gorgée de vodka coca, laissa la télévision se débrouiller avec ses dinosaures dont les combats sauvages dessinaient des ombres fantomatiques sur les murs de sa chambre, et se dirigea vers la commode sur laquelle était posée la glacière contenant les ampoules remplies de liquide ambré. Elle saisit l'anse de la glacière, se dirigea vers la porte de la chambre de Charlène Dumont et toqua discrètement. Lorsque la cuisinière écarta le battant, elle lui dit d'une voix douce : « J'ai besoin de votre aide pour sauver mon fils. »